Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'un déo. Et le déo ici, c'est le dictionnaire de l'Empire ottoman. C'est un outil d'une grande valeur et d'une grande utilité pour ceux qui s'intéressent à la fois aux empires et tout particulièrement à l'Empire ottoman. Et j'ai plaisir à recevoir deux des éditeurs, deux des quatre personnes responsables de cette production, un dictionnaire d'une grande importance. D'abord François Georgeon.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, directeur de recherche émérite désormais. Et je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Et à vos côtés, Nicolas Vatin, académicien. Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et vous êtes aussi un important contributeur, éditeur. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, 4e section et non pas la 5e. Donc spécialiste des études ottomanes aussi. Merci à vous deux. Quel est l'intérêt d'avoir un dictionnaire et non pas un ouvrage d'histoire, même si aussi étonnant que cela puisse être? Un livre d'histoire sur l'Empire ottoman, nous n'en avons pas eu en France que très récemment. Très récemment, il y a peut-être un peu plus que 3 décennies uniquement.
C'est vrai qu'il y a eu un vide concernant l'Empire ottoman. L'histoire de l'Empire ottoman de Mantran, qui a été un livre collectif, qui a été un peu le classique de nos études, datait de 1989. Nous posions la question de savoir s'il fallait le mettre à jour dans les années 2000, car il avait un petit peu vieilli, comme c'est normal, et ou s'il fallait trouver une autre forme pour, disons, présenter un état de la question de l'Empire ottoman. Il se trouve que les recherches sur l'Empire ottoman se sont énormément développées en ces dernières 20 ou 30 ans, et qu'il nous a paru nécessaire de mettre justement une mise au point et de faire connaître au public, un large public, les nouveautés, les nouveaux regards qui étaient portés sur l'Empire ottoman.
Cher Nicolas Vatin, l'œuvre elle-même a pris du temps pour réussir ce dictionnaire, déjà dans sa première édition, puisque là c'est la deuxième, et je dis deuxième parce que j'ose croire qu'il y aura une troisième édition bientôt.
L'intérêt du dictionnaire était de nous permettre d'envisager le maximum de questions ayant un rapport avec l'Empire ottoman, sans être bridé par la nécessité d'avoir un discours cohérent d'un point à un autre.
Je voudrais ajouter qu'il y a une autre bonne nouvelle concernant l'Empire ottoman, c'est l'apparition tout à fait récente d'un Que sais-je, qui est dû à notre collègue et ami Ethem Eldem, et qui est paru au mois de décembre. Donc, vous voyez qu'on est, avec le dictionnaire qui est paru il y a quelques mois, donc on est vraiment, c'est une chance, disons, pour ceux qui s'intéressent aujourd'hui à l'Empire ottoman. Ils ont des outils tout à fait nouveaux. Ce qui a rendu ce travail possible, c'était aussi qu'on avait une équipe au CNRS, elle s'appelait à l'époque Études turques et ottomanes, aujourd'hui on l'appelle le CETOBAK, Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques, voilà, j'ai tout dit, une équipe dans laquelle l'histoire ottomane était à peu près complètement représentée, à la fois dans son développement chronologique, depuis le début de l'Empire, c'est-à-dire depuis le début du XIVe siècle jusqu'à la fin de l'Empire, et aussi en partie de son extension géographique. Peut-être moins là, on a fait beaucoup appel à des collègues d'Aix-en-Provence pour ce qui concernait les provinces arabes de l'Empire. Au total, c'était quand même un socle, si vous voulez, dans l'équipe. Et je crois qu'au total, les membres de l'équipe et avec l'équipe d'Aix-en-Provence qui nous a beaucoup aidés, je pense qu'à peu près 50 ou 60% du dictionnaire a été rédigé par... je ne sais pas si Nicolas, tu es d'accord, à peu près à la moitié. C'est-à-dire, c'était vraiment très important. On avait, si vous voulez, avec cette cette équipe qui a la chance de centraliser, si vous voulez, les recherches sur l'Empire ottoman, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On avait cette chance en France et à Paris notamment. Donc on a pu, si vous voulez, travailler d'une manière extrêmement, dans un climat extrêmement amical. Et je crois que ça a beaucoup aidé à la fabrication longue, de longue haleine de cet outil. Voilà.
Et puis l'autre chose qui fait que c'était possible dans les années 2000 et pas dans les années 80, c'est Internet et les documents joints. On a pu en temps réel discuter avec les auteurs par courrier électronique, ce qui autrefois aurait été épouvantable.
Alors vous avez évoqué Elisabetta Borromeo. Outre son apport pour l'index, quelle était-il aussi son action?
Alors, Elisabetta Borromeo n'est pas intervenue au tout début, quand nous avons, en Normandie, sous les pommiers d'ailleurs, commé à discuter...
Nous trois, voilà.
Avec Gilles Vinstin, de la liste des entrées, des choses de ce type. Alors, Elisabetta Borromeo, d'abord, elle est aussi un chercheur, elle est surtout spécialiste de la question des voyageurs et de la question des catholiques ottomans, parce qu'il y a aussi des catholiques ottomans. Et donc, elle a rédigé un certain nombre de notices. D'autre part, elle a fait un gros travail de rédaction, de mise au propre. Nous avons travaillé ensemble à préparer ce qui n'est pas le point le plus fort du dictionnaire, mais qui quand même est utile, les cartes. C'est-à-dire que nous avons utilisé un cartographe pour les dessiner, mais nous avons réfléchi à ce que nous voulions mettre dedans auparavant. Voilà, un travail, disons, de chercheur, d'éditrice et de secrétariat avec moi au sein du Centre d'études ottomanes du Collège de France. Voilà.
J'ai cru comprendre, mais j'ai pas tout lu, pas toutes les entrées, évidemment, l'ouvrage est considérable, que parfois une entrée peut avoir deux contributeurs et qui se mettent pas, enfin, ils ont des points de vue différents.
Oui, alors, il y a différentes façons d'aborder une question. Par exemple, on peut parler du Coran comme livre ou du Coran comme instrument religieux.
Par contenant et contenu, comme on dit.
On peut aussi... alors, il y a une... Bon, François Georgeon est donc un 19e-iste, 20e-iste. Je suis un moderniste. C'est un phénomène que nous avons constaté pratiquement à chaque fois en préparant nos listes de notices. Il y a une rupture, pas violente, hein, parce que ces choses-là se font progressivement, mais il y a une rupture très nette entre, à partir de la fin du XVIIIe siècle, disons, hein, pour faire simple, et puis ça s'accélère avec ce qu'on appelle les Tanzimats, donc la période des réformes. Il y a des sujets pour lesquels tel auteur est tout à fait compétent pour parler de la période des Tanzimats, mais pour le XVe siècle, il est à court et réciproquement. Pour donner un seul exemple, il n'aurait pas été à court, mais l'article Grand Vizir a été rédigé ensemble par François Georgeon et moi-même. Je me suis chargé des périodes anciennes jusqu'au XVIIIe siècle, et puis il a pris le relais après.
Alors pour nos auditeurs,
ce sont toujours les grands vizirs.
pour nos auditeurs qui le savent, je le sais bien, mais si vous pouviez leur dire, allez, j'ouvre sur l'entrée grand vizir, qu'est-ce que vous diriez, puisque je vous ai, si j'ose dire, sous la main, vous deux, cher François Georgeon, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots de grand vizir?
Ah ben, grand vizir, c'est le deuxième personnage dans l'État ottoman, donc évidemment c'était une entrée absolument fondamentale. Pour ce qui est de la partie classique, je vais laisser à Nicolas le soin d'en parler. Mais oui, il y a des changements importants qui se produisent, justement, comme l'a dit Nicolas, entre ce qu'on peut appeler la période classique, si vous voulez, qui va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Bon, le terme est un peu discutable, mais enfin bon. Et puis une période qui est plutôt moderne, avec des réformes, ou contemporaine, avec des réformes effectivement qui s'inspirent quoi qu'on en dise, beaucoup de l'Occident, si vous voulez. Et à ce moment-là, le grand vizir, évidemment, devient un petit peu un premier ministre. Et parfois, d'ailleurs, le terme a été utilisé au XIXe siècle pendant quelques années par certains sultans qui, donc, pour donner une image plus moderne de l'État ottoman, ont appelé leur grand vizir premier ministre. Mais ça n'a pas duré et il y a eu un grand vizir jusqu'en 1922. En réalité, jusqu'à la fin du sultanat. Le grand vizir, oui, donc c'est une sorte de premier ministre, c'est-à-dire qu'il dirige le cabinet, il dirige ce qu'on appelle la sublime porte, c'est-à-dire en fait le gouvernement, enfin qui justement, à mon époque, c'est-à-dire au XIXe siècle, prend le sens de gouvernement ottoman. Donc voilà, c'est une sorte de premier ministre, si vous voulez, pour mettre les choses vraiment au plus simple.
Mais Nicolas Vatin va encore dire ce qu'il faut pour grand vizir, mais vous avez évoqué la sublime porte. Déjà, presque physiquement, c'est une porte sublime, et puis elle est devenue, là aussi, une antonomase pour l'Empire ottoman, enfin pour au moins la capitale, pour le gouvernement.
Ah oui, comme Matignon au Quai d'Orsay.
Voilà.
D'autant plus que c'était devenu un lieu, en effet, et la porte, on la voit toujours, elle est toujours en place, cette porte-là. Alors, le grand vizir, c'est en effet, disons, le premier des vizirs. C'est une fonction qui se met en place progressivement, et il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, de quel milieu sont-ils issus ? Dans les premiers temps, ils viennent des milieux des savants, des oulémas. Et puis, va arriver le moment où ce seront plutôt des esclaves du sultan. Ensuite, la question se pose, savoir comment on les choisit, quel est leur rapport de confiance avec le sultan. Il y a deux dynasties de grands vizirs. Hein. On a eu, au XIVe, XVe siècle, celle des Chandarle, qui se succèdent voilà au poste, et puis on a eu la fameuse dynastie des Köprülü à partir de bon 17e siècle, hein. Et puis la question est de savoir quel est leur réel pouvoir, dans quelle mesure le pouvoir passe-t-il du sultan au grand vizir, ou bien au contraire à certains moments on finit par dire que la séparation entre le grand vizir et le sultan fait que paradoxalement le sultan retrouve du pouvoir par rapport au grand vizir. Donc en fait, oui, les choses évoluent avant que petit à petit, ça ne prenne l'allure, en effet, ensuite, d'un gouvernement ottoman. Un certain nombre de fonctions officielles deviennent petit à petit des ministères. Par exemple, le chef des scribes est devenu le ministre des Affaires étrangères, hein, pour prendre un exemple simple, des choses de ce type. Donc, ça bouge.
Bon, je pensais, c'est pour ça que je vais vous poser la question, mais je ne m'apesantis pas uniquement sur le grand vizir. Quand je vois le nombre d'entrées, il nous faudrait plusieurs émissions. D'abord, ce n'est pas une nouveauté pour l'Empire ottoman. On a sous la dynastie abbasside le vizirat et avait toute une dynastie de vizirs. C'était simplement pour dire que parfois il y a des termes qui viennent de l'arabe au turc. Et vizir, étymologiquement, c'est celui qui porte une charge, une sorte de ministre en réalité. Donc le grand vizir, c'est le premier d'entre eux, ou le plus important d'entre eux. Et donc j'ai lu que vous choisissiez, au niveau de la graphie, quand on est en contexte turc, l'appellation turque, et quand on est en contexte arabe, c'est-à-dire si on a un Ahmed gouverneur chez les Égyptiens, vous le graphiez ou vous le prononciez, si je puis dire, à la manière arabe.
C'est un problème très compliqué et qui est insoluble, parce que est-ce qu'un bacha c'est un pacha? Un pacha est un pacha, donc malgré tout le pacha du Caire ça restera le pacha du Caire, parce que c'est une fonction de l'empire. Maintenant, quand on parle de phénomène de civilisation arabe, on va plutôt utiliser tout de même la formulation arabe. Mais alors, Vous parlez d'un personnage, un Ahmed Pacha qui est pendant 3 ans au Caire et puis qui ensuite ira à Belgrade, c'est quand même un Ahmed Pacha. Mmh. Même si, localement, les Kérotes vont l'appeler Ahmad. Et en réalité, on fait ce qu'on peut, il y a toujours un moment où on tombe sur une aporie.
Der Pacha kommt. Come on.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'un ouvrage considérable, d'une grande utilité, le dictionnaire de l'Empire ottoman, avec deux de ses rédacteurs, j'utiliserai le terme, et de ses éditeurs, François Georgeon, directeur de recherche émérite au CNRS, historien, dixièmeviste, et Nicolas Vatin, académicien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, quatrième section. Et pour cette deuxième partie, on a parlé comme ça, parce que vous pensez, mes chers amis, que nos auditeurs sont familiarisés avec tout le champ sémantique, toute la lexicographie et tout le vocabulaire de l'Empire ottoman. Vous avez parlé des Tanzimat tout à l'heure, les réformes. Que sont-elles? De quoi s'agit-il? Votre serviteur sait que c'est quelque chose qui a été initié de 1839 à 1876. Donc je m'adresse à vous, François Georgeon. Mais Tanzimat, moi si je devais me référer uniquement à l'arabe, je dirais réorganisation. Peut-être pas nécessairement réforme, mais on comprend par là plutôt réforme.
Voilà encore un mot qui vient de l'arabe, comme presque tout le vocabulaire politique ottoman, il faut bien le dire, au moins jusqu'au début du XXe siècle. Et même parfois, encore aujourd'hui, dans le turc, on trouve des mots d'origine arabe, comme Cumhuriyet, par exemple, la République, qui n'a pas été transformée dans le turc nouveau, ce qu'on appelle le turc nouveau. Alors, les Tanzimat, oui, vous avez raison, c'est la réorganisation. Donc là, d'ailleurs, le terme Nizam était tout à fait utilisé dans la philosophie politique ottomane, l'ordre du monde, Nizam Yalem, donc voilà,
l'ordre.
Et c'est le terme que l'on a utilisé effectivement pour désigner la période qui s'étend, comme vous l'avez dit, de 1839 à 1876, c'est-à-dire une période effectivement de réorganisation de l'État ottoman, parce que une série de défaites, de crises avaient conduit les sultans et les hommes politiques ottomans à penser qu'il fallait absolument introduire des réformes dans l'Empire ottoman. Cela dit, la problématique des réformes ne commence pas quand même en 1839, elle est plus ancienne. Déjà au XVIIIe siècle, un certain nombre de grands vizirs, précisément, l'ont mis à l'ordre du jour. Elle a été à nouveau l'une des grandes affaires du sultan qui fait le lien justement entre l'époque classique ottomane et l'époque moderne, c'est-à-dire Selim III, dont le règne correspond à peu près à la Révolution française et à l'Empire, 1789-1807, et qui a essayé, lui, de faire des réformes qu'on a appelé à l'époque, également d'un terme arabe, bien sûr, Nizam al-Jadid, le nouvel ordre, si vous voulez. Et ensuite, tout cela a été poursuivi par son successeur Mahmoud II, qui a été aussi un véritable réformateur. En fait, les Tanzimat, il s'agit de, sur le plan essentiellement institutionnel, si vous voulez, d'apporter des réformes de centralisation, de modernisation, de standardisation dans un empire qui était justement extrêmement divers et donc très compliqué à administrer, et cela notamment avec la pression des États européens, le début des nationalismes dans les Balkans. Tout cela compliquait beaucoup la donne pour les hommes politiques ottomans. D'où cette nécessité, après des réformes militaires qui étaient plus anciennes, d'apporter à l'organisation de l'État plus d'efficacité. Voilà, en fait, ils étaient à la recherche de l'efficacité, et c'est pour ça que les hommes des Tanzimat, par exemple, dans le domaine du droit, eh bien, ont essayé de... Il y a eu différents codes qui ont été publiés à cette époque et qui ont permis, justement, d'apporter une certaine clarification dans un système qui était extrêmement compliqué.
Alors pourquoi dit-on que la fin de cette période des Tanzimat, j'utilise le terme, est venue avec une nouvelle loi fondamentale, la Constitution?
Oui, alors on considère généralement que le point final, si vous voulez, en quelque sorte, de ces réformes, c'est l'adoption par l'Empire ottoman d'une constitution en 1876. C'était quand même quelque chose d'assez moderne. N'oublions pas que la Russie, à la même époque, le grand voisin, n'a pas eu de constitution avant 1905. Et donc, voilà, c'est un petit peu, effectivement, l'apogée de cet esprit de réforme, une constitution. Et malheureusement, elle a été suspendue 2 ans après par un sultan qui était assez autocrate dans ses façons de gouverner. Et ce qui fait que cette constitution, qui est à la fois le point fort, le point d'arrivée des Tanzimat, en est en même temps la fin. Voilà.
Nicolas Vatin, il y a plusieurs entrées, bien entendu, considérables, et quelqu'un qui s'intéresse à l'Empire ottoman, ou simplement pour être cultivé, trouvera son bonheur. Il y a des cas classiques. Souleyman le Magnifique, il est affublé de l'épithète magnifique ici, chez nous en Europe, mais il en a encore 2 autres. Le législateur et le bâtisseur. Le bâtisseur, parce qu'il avait, il aurait ordonné la reconstruction des remparts de Jérusalem, mais surtout peut-être la Souleymanie et d'autres monuments. Et le législateur, je le dis sous votre contrôle, parce que il a produit, si j'ose dire, du droit séculier. Il ne s'est pas référé à une quelconque nomothéocratie, c'est-à-dire une sorte de loi venant de Dieu et qu'on devait imposer.
Oui, alors kanouni, voilà, là c'est du grec cette fois-ci. Mmh. En fait, bien entendu, Soliman n'est ni le seul ni le premier législateur. Ça commence avant. On a le fameux kanounnamé de Mehmed II, son arrière-grand-père, sauf erreur. L'idée, c'est qu'il y a toute une série de choses que la charia ne traite pas directement, et qu'il faut donc réglementer, légiférer. Et ça, c'est le fait du prince, ou de l'imam, c'est la siyasette. Il peut faire ce qu'il veut dès lors que ça ne vient pas contrarier la charia. Ça concerne à la fois l'organisation de l'État, mais la fiscalité, l'ordre public, un certain nombre de choix d'ordre judiciaire, là où on est en dehors de ce que la charia a précisément envisagé. C'est très important. Et ces kanounnamés, il y en a de régionaux qui servent de base à l'enregistrement fiscal, et puis il y en a de nationaux qui traitent de questions générales. Ces kanounnamés, on les a conservés, on s'y reporte, ce sont des choses très importantes. La loi ottomane, et là, la charia, le kanoun, et puis ce qu'on appelle la coutume, c'est-à-dire que les Ottomans ont toujours tenté, autant que possible, de respecter les coutumes locales, notamment dans les pays envahis, dès lors que ça ne venait pas déranger le bon ordre impérial et chariatique. Il y a aussi autre chose dont on ne parle pas assez, qui est une espèce de coutume administrative. Quand on étudie tel ou tel problème, on constate que, à même question, même réponse administrative dans les procédures, dans les façons de faire, dans les décisions. Et là, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'a pas donné lieu à rédaction, mais probablement à formation dans les bureaux. Et donc, un administrateur ottoman au XVIe siècle savait que devant tel problème, par exemple, quand on doit exiler quelqu'un, eh bien, il y a des procédures. Vous ne les trouvez écrites nulle part, mais quand vous avez vu 45 exils, ils sont tous faits de la même manière.
Comment, cher François Georgeon, un petit beylika, il faudrait peut-être l'expliquer ou aller voir dans le dictionnaire, d'un certain Osman, qui donnera ottoman par corruption de Osman, dès 1299, et on est au tournant du 14e siècle, d'ailleurs 1300, ça complète le 13e. Les gens ne savent pas qu'on a célébré l'an 2000, mais l'an 2000, c'est toujours le 20e siècle. Je le dis comme ça en passant. Comment se fait-il que ça a grandi pour devenir un grand empire sur 6 siècles, et presque même un quart en plus? Si vous nous donniez, s'il vous plaît, à la fois l'étendue temporelle et l'étendue terrestre de l'Empire ottoman.
Alors oui, c'est une... Enfin, je crois que Nicolas serait mieux placé que moi pour y répondre. Enfin, je peux donner quelques idées. Effectivement, donc, c'est un émirat parmi d'autres, hein, sur les décombres, disons, du sultanat seldjoukide d'Anatolie, qui combat donc contre les chrétiens et qui, dans un jeu d'alliance qui serait souvent très compliqué. Et il se trouve que peut-être la localisation de cet émirat, donc, qui est dans le nord-ouest de l'Anatolie, la Bithynie, qui est une région qui est riche et qui est proche, évidemment, du cœur de l'Empire byzantin, c'est-à-dire très proche de Byzance, et qui, donc, s'agrandit peu à peu au détriment, effectivement, des autres émirats, en réalité, et qui, également, va très vite passer dans les Balkans. C'est-à-dire que on pense toujours à 1453, la conquête de Constantinople, mais en réalité... Pardon ?
Le 29 mai.
Voilà, le 29 mai, exactement. Et en réalité, l'Empire est en Europe un siècle avant. Un siècle avant. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie un peu. La première capitale a été Brousse, en Asie mineure. La deuxième est jusqu'à la conquête, Edirne, donc Andrinople, comme on dit en français, du côté balkanique. Et les Balkans, donc, interviennent très tôt dans l'histoire ottomane, hein, dès le milieu du XIVe siècle, et c'est le cœur de l'Empire, en réalité. Ça, c'est quelque chose que l'on oublie, l'importance fondamentale de ce qu'on appelait au XIXe siècle la Turquie d'Europe, enfin ce que les Européens appelaient la Turquie d'Europe, ou la Roumélie, enfin il y a eu plusieurs termes pour indiquer cette importance de l'Empire ottoman dans les Balkans, puisque au fil des siècles, l'Empire ottoman s'est étendu jusqu'à l'Adriatique et jusqu'à Budapest, hein, le point avancé. Voilà. Mais je laisse à Nicolas le soin de compléter ce que j'ai dit ou d'amender ce que j'ai dit.
Tu as dit l'essentiel. Ce qui est très important, c'est ce petit émirat ottoman est frontalier de l'Empire byzantin. Donc il a un jeu tout particulier à jouer. Maintenant, il n'est pas le seul et il n'est pas toujours en conflit. Il est aussi, il peut aussi collaborer avec l'Empire byzantin ou telle partie dans l'Empire byzantin. Et c'est ça qui lui a permis de mettre le pied en Europe. Il n'est pas le seul émirat d'ailleurs à l'avoir fait. D'autres émirats ont aussi collaboré avec les Byzantins et donc à développer d'abord en effet un empire balkanique, disons. Ça c'est très important. Et ce que François aurait pu dire, c'est que ça reste fondamental jusqu'à la fin, puisque les jeunes Turcs, ce sont des Turcs d'Europe, si je puis dire, qui refusent que la Turquie cesse d'être européenne. Il me corrigera si je dis une bêtise.
Jusqu'aux guerres balkaniques, voilà. En réalité, c'est-à-dire jusqu'en 1913, pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire, l'Empire est en Europe.
Alors, il y a autre chose de très très important, parce que parallèlement à cette expansion européenne, il y a une expansion anatolienne, alors pour le coup au détriment de collègues turcs musulmans qui ont des émirats ici ou là. Et ça se fait par un mélange d'intimidation, de violence, d'accord. Et le succès appelle évidemment le succès. Donc il y a des gens qui viennent s'agglomérer autour du petit émir ottoman qui apporte des moyens d'action, de butin, etc. Même s'il ne faut pas exagérer cela, l'idée qu'ils font la guerre sainte joue un rôle aussi. Et puis il y a une spécificité ottomane très forte, c'est le refus de la division du pouvoir et de la dynastie. Il n'est pas question de partager l'émirat puis l'empire. Hein. On n'a jamais d'apanage accordé à tel ou tel prince. Et très rapidement, on ne donne plus de filles à épouser à des seigneurs voisins et on n'épouse plus les filles de seigneurs voisins. Et donc, on n'a pas de dot qui font qu'un territoire va... Bon. Et donc, cette idée que l'Empire est, en modifiant le sens des termes, un et indivisible, est essentielle parce qu'elle a maintenu une force considérable. Et même, d'une certaine manière, au moment où tout éclate après la défaite contre Tamerlan en 1402, l'Empire ottoman se désagrège, les différents successeurs essayent de jouer leur rôle, mais ils n'ont qu'une idée, c'est d'éliminer leurs frères les uns après les autres pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Alors, il y en a un qui gagne, mais les autres en auraient fait autant, parce que on n'est pas ottoman quand on a plus d'un derviche sur un seul tapis, pour prendre un proverbe de l'époque.
Alain, oui, je vous en prie.
Et bien entendu, l'extension de l'Empire continue. Au début du XVIe siècle, et là on passe aux provinces arabes. Les conquêtes commencent tout début du XVIe siècle avec le sultan Selim Ier, et c'est lui qui ajoute cette partie comme fondamentale dans l'empire, puisqu'il y aura le Caire, il y aura la Mecque et Médine, bien entendu, jusqu'au Yémen, voilà, et un peu plus tard jusqu'au Maghreb, Maroc non compris,
jusqu'à Oran, Tlemcen,
voilà, exactement. Et c'est là que l'on obtient fin XVIe siècle et début XVIIe siècle la plus grande extension de l'empire. Et quand même un empire sur trois continents qui est quelque chose d'assez considérable, qui est maritime et territorial en même temps, avec des assises territoriales, notamment l'Anatolie et les Balkans.
Oui, j'ai des tas de questions à vous poser, mais vos réponses me poussent à vous en poser davantage, et ça se ramifie comme ça, et ça se densifie. On disait de l'Empire ottoman que jusqu'à la bataille de Lépante était une thalassocratie, un véritable pouvoir sur les mers connues, en tout cas la Méditerranée et la mer Noire, comme un lac ottoman. Est-ce vrai d'ailleurs, est-ce que la flotte ottomane était aussi puissante au moins en mer Égée et ailleurs, et est-ce que la bataille de Lépante y a mis fin ou elle a pu renaître par la suite?
Il y a beaucoup de légendes. Alors, l'émirat maritime, ce n'est pas celui des Ottomans, c'est celui d'Aïden. Hein, Smyrne Aïden. Les Ottomans, évidemment, se sont trouvés petit à petit au bord de la mer, et ils ont développé une flotte qui devient assez importante à partir de la fin du XIVe siècle, surtout le XVe siècle. C'est une flotte qui est loin d'être techniquement de la valeur de celle du grand rival, qui est Venise. Encore dans la guerre de Crète au XVIIe siècle, les Vénitiens tiennent la mer. Ils finiront par perdre la Crète, mais ils tiennent la mer. Ils bloquent les détroits, à l'époque classique, la flotte ottomane, qui est très importante, joue un rôle surtout logistique. Elle permet de transporter beaucoup de monde. De toute manière, on fait peu de batailles navales. Certaines sont gagnées comme à Preveza, d'autres sont perdues comme Lépante. Alors Lépante, c'est une catastrophe parce que on perd beaucoup de bateaux, surtout parce qu'on perd beaucoup de combattants. Mais, comme tout le monde sait, dans les deux ans, une flotte est reconstruite. Et bientôt, on va récupérer Tunis. Donc, on a surestimé la puissance maritime ottomane parce que ces flottes n'ont jamais réussi à être aussi efficaces que celles principalement de Venise, et puis quand on arrive à d'autres périodes, des grandes puissances françaises, surtout anglaises et néerlandaises. Et en même temps, on a surestimé l'affaire de Lépante, qui est d'abord une grosse défaite ottomane et un immense coup de pub de la papauté. De publicité, il n'y a pas de... J'ai noté.
Publicité, c'est vrai. Il n'y a pas d'affaires non plus. On ne dit pas ricain pour américain ou pitain pour capitaine. Non, je vous en prie.
Voilà, donc il faut citer quelqu'un qui est décédé lui aussi, qui était un ami très proche et qui est un gros contributeur du dictionnaire, qui est Daniel Panzac, qui a fait un très beau livre sur la marine ottomane du XVIe au XXe siècle et dont il faut recommander la lecture absolument, qui montre bien comment l'Empire ottoman fait toujours d'immenses efforts, et là où ça coince le plus, c'est dans l'encadrement, surtout l'encadrement moyen.
Pardon, qui disait à son interlocuteur, suite à la bataille de Lépante, vous nous avez... Nous vous avons fait couler je ne sais trop quoi, quand on a pris Chypre, on vous a pris un bras, mais vous, après la bataille de Lépante, vous nous avez coupé notre barbe.
On attribue ça, je crois, au grand vizir, je n'en suis pas sûr. De toute manière, si la formule c'est la barbe, ce qu'il faudrait vérifier, c'est symboliquement très fort.
en tout cas, pour ce qui concerne la mer et l'Empire ottoman et la mer, ce qui est intéressant, c'est que les Turcs sont au départ des nomades et des paysans en réalité. Et la mer, ils vont la connaître à travers les Grecs et les Italiens. Le vocabulaire nautique turc est presque entièrement composé de mots italiens et grecs en réalité. C'est-à-dire que c'est pas le fond de la culture, mais bien entendu historiquement, bon, l'Empire ottoman est un grand empire maritime et jusqu'au ensuite évidemment au 19e siècle les bateaux à vapeur et les lignes internationales vont commencer à supplanter évidemment, à prendre leur importance dans l'Égée, dans la mer Méditerranée. C'est un des aspects de l'impérialisme européen au 19e siècle.
Il y a quelque chose dont il faut dire un mot aussi à propos de cette histoire de flotte, c'est la question de la course piraterie, parce que les corsaires, donc des gens qui normalement ne s'attaquent qu'aux ennemis de la puissance à laquelle ils sont affiliés, les corsaires ottomans jouent un rôle très important aussi, ils se joignent à la flotte, ils font de la reconnaissance, et puis il y a tout un travail de désolation des côtes des ennemis qui est très très important, et en sens inverse, la course ou la piraterie occidentale est très importante et à partir du XVIIe siècle désorganise passablement les communications en Méditerranée orientale et on en viendra à un point où les Ottomans préféreront affréter des bateaux occidentaux, surtout français, c'est ce qu'on appelle la caravane maritime, pour faire même du transit à l'intérieur de l'Empire ottoman, c'est plus sûr. Voilà, donc il faut tenir compte, il y a les flottes avec un grand F, et puis il y a ce monde entre piraterie et course qui joue aussi un rôle important.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et tout particulièrement aujourd'hui nous parlons de l'Empire ottoman à travers un dictionnaire, un DO, le dictionnaire de l'Empire ottoman avec deux de ses rédacteurs, de ses éditeurs, François Georgeon, directeur de recherche, directeur émérite, grand historien, spécialiste du 19e siècle et de l'Empire ottoman, et Nicolas Vatin, académicien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre de l'Institut, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste des études ottomanes, la fameuse 4e section. Et pour cette dernière partie, qui reste ouverte, et puis le dictionnaire est d'une grande utilité, sincèrement, j'en suis extrêmement émerveillé, et d'une grande utilité à quiconque a envie de s'intéresser non seulement à l'Empire ottoman, mais à avoir une grande culture à la fois de ce qui s'est passé à travers l'histoire récente et même passée, et de nos jours. Si nous devions nous intéresser, par exemple, à un architecte comme Sinan, on ira chercher dans Sinan et on trouve une courte biographie ou ses œuvres aussi.
Il y a un article Sinan, oui, qui doit être dû à Pierre Pinon, j'imagine. Et puis il y a des articles sur l'architecture civile et militaire. Bien sûr, Sinan, il est très célèbre. Je ne sais pas si sur d'autres architectes qui ont laissé leur nom aussi, nous avons des notices. Il a fallu faire des choix. Les noms de personnes sont majoritaires dans la liste des notices, mais même comme cela, nous en avons exclu un nombre énorme.
Oui. Ah ben, un Ibrahim Mutafarriqa, on l'a trouvé, je l'ai trouvé, et d'autres aussi. Les relations qui ont pu avoir entre quelques vassaux avec leur suzerain, le sultan ottoman, par exemple la régence d'Alger, elle était autonome de fait, sauf lors de la prière du vendredi, on louait abondamment l'empereur ottoman, si j'ose utiliser le terme. Le reste, le lien de vassalité se transformait, était illustré comment ?
Ben, en fait, d'abord, c'est variable dans le temps. Hein. Ce ne sont pas les Ottomans qui sont emparés de l'Algérois, c'est un corsaire en rupture de banc, qui ensuite en a fait don au sultan parce qu'il se sentait mal à l'aise face aux menaces de Charles Quint. Dans un premier temps, ça a été plus ou moins géré par Barbarousse. Et puis, le pouvoir proprement ottoman, c'est en effet lentement délité pour donner la place à un pouvoir beaucoup plus contrôlé par des puissances locales, bon, à la fois les janissaires qui étaient différents des janissaires de Provence centrale et les corsaires. Mais il n'y a pas que la prière, évidemment. On dit la prière au nom du sultan d'Istanbul.
Témoigner peut-être à l'effigie du sultan.
Pas à l'effigie du sultan. Il y a sa tour là. Oh là, la figie. Où nous menez-vous? Mais il y a quand même plus que cela. À chaque fois que l'empire a besoin de la flotte d'Alger est là.
Avec Ulouc Ali comme grand capitaine.
Il y a eu Ulouc Ali, il y en a eu beaucoup d'autres, mais même plus tard. Donc, si vous voulez, et c'est pareil en fait pour les autres régences. Et d'une certaine manière, il n'y a pas que cette sorte de vassalité. Il y a un sentiment d'appartenance à un ensemble, même quand les Anglais sont en place en Égypte, les Égyptiens se sentent encore en partie ottomans. Ça reste très très fort. Alors, ce qui s'est passé évidemment, c'est que les Occidentaux se sont bien rendus compte au XVIIe siècle que les accords qu'ils avaient avec la Porte n'avaient pas beaucoup d'effet en Méditerranée occidentale, parce que la Porte n'avait pas les moyens d'imposer aux régences de respecter les règlements. Et donc, ils en sont venus à négocier directement avec les régences. Mais il reste que, si, je crois que dire simplement « bon, ils étaient loin, ça n'a pas d'importance », c'est excessif. C'était plus qu'un membre du Commonwealth se demandant s'il va pas devenir une république aujourd'hui. C'était plus proche de ce que pouvait être le Commonwealth avant la Seconde Guerre mondiale. On faisait partie d'un ensemble quand même.
Oui, et puis il y avait les janissaires aussi. Il y avait une garnison de janissaires à Alger et qui représentait le pouvoir militaire du sultan, même s'ils n'étaient pas très nombreux. De la même façon, en Tunisie, il y a eu aussi un développement d'une dynastie au fond locale, les Husseinites aussi, puissantes au XVIIIe siècle en particulier. En Tripolitaine, finalement, tout ça est un peu à changer selon les époques, etc. Les Ottomans ont repris pied en Tripolitaine après l'occupation française en Algérie, en réalité, parce qu'ils s'inquiétaient. Mais la Tripolitaine était pratiquement une régence presque indépendante, en fait, jusqu'à cette époque-là. Donc, il y a eu beaucoup de variations dans la relation entre l'Empire ottoman et les régences, oui.
Et là, il y a un autre élément dans cette espèce de jeu de dépendance mutuelle. Les sultans ottomans ont besoin de l'affirmation qu'ils sont dominants au Maghreb. Ils ont besoin quasiment des flottes maghrébines. Mais de leur côté, les Algériens, en tout cas, on parlait des janissaires, en fait, ils ont besoin d'arrivées régulières d'hommes qui ne sont pas du tout recrutés comme les janissaires qui sont des esclaves, qui sont des hommes qui viennent d'Anatolie ou de plus loin parce que on ne partage pas ce rôle militaire avec les populations locales. Donc on a besoin de faire venir régulièrement des gens du Levant. Et donc on a besoin pour ça de l'accord du sultan aussi. Donc c'est ce sont des liens qui sont très distendus, mais qui n'ont jamais été coupés, enfin me semble-t-il.
Loin de moi toute idée de pinailler ou de vous chercher noise, mais je n'ai pas trouvé l'entrée Ospodar. Et ce serait, ou c'est le vassal, cette fois-ci du côté du Danube ou de l'actuelle Roumanie, des sultans ottomans. Alors, il n'y a aucun intérêt, ou c'est un oubli,
Je ne crois pas qu'il y ait d'entrée Ospodar. Il y a une entrée Transylvanie, bien sûr. Il y a une entrée Tavasso, tant que je me souvienne, qui doit être due à Guinness et Schuxel.
Peut-être l'index peut être utile là, pour Ospodar, mais effectivement, c'est une des lacunes. Il y en a d'autres, malheureusement. C'est pour la troisième édition.
Si le mot Ospodar n'est pas dans l'index, c'est que les gens qui ont rédigé sur ces régions n'ont pas éprouvé le besoin d'utiliser le mot aussi, parce que sinon il apparaîtrait dans l'index.
Non, mais moi je pensais qu'il allait y avoir une entrée ad hoc spécifique, mais ça n'a vraiment aucune importance. Le temps s'écoule inexorablement et vraiment c'est très très riche, ça mérite même une autre émission, parce que j'aurais peut-être deux fondamentales, une sur les capitulations et une sur la sublime porte qui, dans le débat actuel, serait... on dit l'homme malade de l'Europe. On n'a pas dit l'homme malade tout court ou l'homme malade de l'Asie, mais on dit l'homme malade de l'Europe. Et de nos jours, on dit oui, mais de toute façon, la sublime porte n'avait rien à voir avec l'Europe. Donc, un mot, sur les capitulations, parce que c'était un temps formidable entre François Ier et Souleyman, le Magnifique, et puis peut-être pour finir avec cette question de la sublime porte comme l'homme malade de l'Europe. Qui choisit l'une ou l'autre?
Alors, pour les capitulations, Aridname, on a un mélange d'arabe et de persan pour le coup, c'est lettre d'engagement de la part du sultan. Ça veut dire que le sultan, unilatéralement, accorde à une communauté, qui peut être une communauté intérieure à l'Empire d'ailleurs, comme par exemple les gens de Galata, un certain nombre de privilèges, et je prends le mot au son sens strict, c'est-à-dire que c'est une société de privilèges, l'Empire ottoman, il n'y a pas, chaque catégorie peut avoir sa situation propre. Hein. Donc un certain nombre de garanties. Bon. Eh bien, ces garanties vont également pouvoir être accordées à un certain nombre de puissances. La première, c'est Venise, et puis ensuite, on aura la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, et puis ça se multiplie. Ce sont des traités à la fois commerciaux, qui traitent aussi, dans certains cas, de relations, de questions de la piraterie, par exemple, des relations frontalières, enfin, ça va dépendre complètement de la situation. Et c'est unilatéral, au sens où le sultan dit « je t'accorde ceci, et si tu te conduis comme ceci, de mon côté, j'en ferai autant ». Bien entendu, quand on traite avec Venise ou la France, c'est négocié auparavant. Donc c'est un unilatéralisme qui est, j'allais dire, de façade. Bon, ce qui se passe évidemment, et là je vais passer la parole à François, c'est que le temps passant et le rapport de force et de puissance se renversant, ce qui a été des accords mutuellement intéressants a pu devenir l'occasion pour des puissances un peu agressives d'imposer leur point de vue à un gouvernement ottoman qui était devenu plus faible.
Ben c'est justement une des dimensions de cette maladie de la sublime porte. C'est évidemment la pénétration économique européenne, et pas seulement économique, mais également culturelle, et qui s'appuie effectivement sur ces privilèges des capitulations qui imposent à la sublime porte des droits de douane qui sont fixés et qui sont désavantageux, qui l'obligent à ouvrir des consulats, par exemple, un peu partout dans l'Empire, et qui ont évidemment le droit d'extraterritorialité. Et puis surtout, ces privilèges ont été diffusés auprès des non-musulmans. On les appelait les baratères, ceux qui avaient un berat, c'est-à-dire un brevet, si vous voulez, qui leur permettait finalement de se comporter dans l'Empire comme s'ils étaient des étrangers. Alors c'est un des aspects, effectivement. La formule l'homme malade de l'Europe, elle est de Nicolas Ier, donc le tsar de Russie, qui prononce ceci en 1853, à la veille de la guerre de Crimée. Et bon, elle a fait fortune ensuite. En réalité, on y revient un petit peu aujourd'hui, parce que d'abord, cet empire malade s'est maintenu aussi longtemps que les deux autres empires autrichiens, austro-hongrois et russes, et même un tout petit peu plus longtemps, puisqu'il disparaît en 1922 et non pas en 1918. Bon, c'est vrai que c'est un empire qui est, si l'on le compare à ces deux empires, et en retard sur le plan économique, industriel, etc., technologique, et ceci explique évidemment sa disparition. Voilà. Mais je voudrais ajouter quelque chose, peut-être pour revenir un petit peu au début de notre discussion, c'est que ce dictionnaire aussi offre quand même donne beaucoup de place à la pluralité ottomane, hein, c'est-à-dire et en particulier aux non-musulmans. Il y a énormément d'entrées sur les Juifs, sur les Grecs, sur les Arméniens et d'autres communautés également. Et finalement, d'une certaine façon, il rend mieux justice d'une certaine façon qu'une histoire linéaire qui est pratiquement toujours centrée sur l'État, si vous voulez. Et c'était un petit peu le cas de l'histoire de l'Empire ottoman de Mantran en 1989, donc, qui était extrêmement solide, mais qui était malgré tout centré sur l'État. Et à ce moment-là, quand on centre la question sur l'État, on est évidemment davantage du côté turc, musulman, si vous voulez, bien sûr que sur le côté de cette pluralité ottomane qui s'est poursuivie jusqu'au début du XXe siècle et qui est quand même un phénomène extrêmement important. Donc, il y a, je crois que ceux qui s'intéressent au problème des communautés trouveront quand même beaucoup d'éléments dans ce dictionnaire, que ce soit donc sur la culture juive ou bien sur le génocide des Arméniens, par exemple, ou également sur tout ce qui concerne les Grecs dans l'Empire ottoman.
Bien, messieurs les professeurs, merci. Merci infiniment. Nous arrivons au terme de l'émission. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'Empire ottoman à travers un dictionnaire d'une grande utilité et d'une grande richesse. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster, comme on dit maintenant, et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est notre ami Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Étienne Collin et la réalisation est assurée par notre ami François Konak. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin satırızı uzun etey camur. Katibimin satırızı uzun etey camur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katibin min bin katibin elle karışur. Katibin mühkül ele de gamlik ne güzel yarasur.